Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En RDC, la plupart de parcelles situées non loin de rivières autres cours d'eau sont souvent inondées à chaque saison de pluie. C'est le cas avec les dernières pluies, des pluies qui ne s'arrêtent pas de s'abattre. La ville de Kinshasa, on a déploré beaucoup de cas d'inondation à travers la ville. C'est également le cas dans d'autres parties du pays, comme du côté des Lex, dans certains coins de l'ex-province orientale. On a également signalé des cas d'inondation suite aux pluies et à l'absence de curage de rivières et la construction des maisons à proximité des cours d'eau serait à la base de cette situation dont on en saura davantage avec notre invité Théodore Lou Kakao qui est spécialiste en environnement. Si vous voulez appeler, vous avez des questions, des témoignages, composez les 081 890 63 94 ou bien réagissez sur la page Facebook Okapi Service. Théodore Lou Kakao, les inondations, ça il faut le dire que c'est on n'arrête pas de déplorer des cas d'inondation chaque fois qu'il y a des pluies qui s'abattent dans plusieurs coins du pays et les sinistrés, on n'arrête pas de les compter. Comment on peut faire contre ces inondations? Comment on peut faire pour lutter contre ces inondations? Parce que d'après un bon nombre d'experts dont vous faites partie, il y a l'absence de curage des rivières, la construction de maisons à proximité des cours d'eau, des maisons également construites de façon anarchique et qui sont qui sont à la base de ces genres de situations.
Le problème fondamental, d'une façon générale, c'est le manque de plans d'aménagement dans la plupart des villes, depuis, je crois, l'époque coloniale ou après l'indépendance, jusqu'à ces jours. Dans la plupart des villes, il n'y a pas de plan général d'aménagement. Et le lotissement des espaces, des terrains, s'est fait au gré des agents de l'État, au gré des chefs coutumiers, ce qui fait que chacun va placer sa parcelle, sa maison, là où il estime nécessaire, sans tenir compte de conditions de terrain, de conditions climatiques, environnementales.
Mais dites-moi, à ce niveau, qu'est-ce qui devait se passer après un lotissement? Qu'est-ce qui devait d'abord être fait lorsqu'on a loti?
Normalement, un lotissement devait se faire concomitamment avec un plan d'aménagement du terrain à lotir. C'est-à-dire qu'on doit déjà prévoir les infrastructures de base, électricité, eau, canalisation des eaux usées, des eaux assainissement des eaux pluviales et le reste. Mais si c'est chacun qui place sa maison comme il entend, comme il le veut, vous comprenez que n'ayant pas un plan d'aménagement d'un quartier, ça va créer un désordre, même du point de vue des infrastructures. De sorte que parfois on est obligé, quand on veut mettre des infrastructures, il faut casser des maisons, il faut essayer de mettre des routes là où ça devait être, etc., etc.
Alors prenons le cas de personnes qui construisent les longs de rivières ou autres cours d'eau à proximité de ces cours d'eau. Et c'est des personnes qui viennent comme ça construire d'elles-mêmes ou bien c'est des personnes qui ont des autorisations ou bien c'est des endroits qui ont été lotis de manière légale. Ça se passe comment, surtout pour des maisons construites à côté des rivières?
Bon, c'est comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une personne en connivence avec une autorité quelconque, communale ou autre, à un terrain, après il va régulariser les papiers, on les régularise et après la personne occupe l'espace.
Donc on prend d'abord possession du terrain et ensuite on verra
les choses. Et quand on le fait sans savoir que le climat aussi a ses caprices, donc il peut peut-être avoir acquis ce terrain, dans la plupart des cas c'est pendant la saison sèche, donc où tout est sec, on n'a pas de problème. Mais après, on constate que quand il va pleuvoir, et surtout cette année où on a des pluies exceptionnelles, Il y a trop d'eau et on ne sait pas gérer cette quantité d'eau, ce qui va entraîner des conséquences, soit la maison sera détruite, on va connaître des pertes de biens, on va connaître des pertes d'hommes, des enfants peuvent mourir, etc. Donc c'est un peu ça. Donc le problème c'est, soit dans les longs, par exemple, des cours d'eau, les zones inondables, on devrait d'abord les aménager pour que les citoyens viennent les habiter. Mais si ce n'est pas aménagé, ce n'est pas approprié pour être des lieux d'habitation.
Il faut d'abord nécessairement un plan d'aménagement urbain.
Et à ce moment-là, on sait où est-ce qu'on peut placer les habitations, où est-ce qu'on peut placer les infrastructures d'assainissement, d'électricité, d'approvisionnement en eau, etc., etc.
Mais prenons les cas pour ceux qui habitent la ville de Kinshasa. Ils ont vu tout ce qui est comme inondation au niveau du quartier des bonhommes Salongo, c'est-à-dire juste après le pont Djili. Il y a beaucoup, en tout cas, des maisons qui ont été vraiment inondées. Et là, par exemple, il y a des constructions qui sont là, matériaux durables et tout et tout. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va demander beaucoup de moyens pour rendre ces quartiers viables et pour que la population puisse être épargnée de ces désagréments. Alors, étant déjà là, donc, ils peuvent soit s'organiser eux-mêmes pour que les eaux puissent être canalisées dès qu'il y a pluie vers les cours d'eau les plus proches, donc la rivière Ndjili par exemple. Nous avons les cas du quartier Ndano. Quand il pleut au quartier Ndano, l'eau stagne. L'eau ne sait pas où aller. Donc ça pose problème. Mais si on crée des drains...
Le quartier Ndano, c'est...
À Kingabwa,
oui.
Ouais, vers le nom de la station de traitement d'eau de la régie des eaux.
Oui.
Donc si... Au niveau du quartier, les gens s'organisent en comité local d'assainissement, par exemple. Ils peuvent réfléchir, ils peuvent trouver des solutions moins coûteuses, qui peuvent aider à résoudre ces problèmes. Mais le problème, c'est aussi, à ce niveau, cette prise de conscience ne doit pas seulement s'arrêter pour dire, bon, l'État fait quelque chose. Il n'y a pas que ça comme priorité. Bien sûr, c'est une priorité par rapport aux dégâts humains et matériels que cela engendre. Mais il y a des solutions palliatives qu'on peut trouver. Je donne le cas de notre quartier. Je suis dans un quartier aussi, non loin de la rivière Ndjili, qui est un quartier inondable. Un nouveau quartier qu'on appelle la vallée Ngangwele. Donc, de l'autre côté de Massina.
Et vous avez également connu dans ce quartier des cas d'inondation dans les dernières pluies?
Oui, en fait, les inondations...
Mais qui n'étaient pas aussi dramatiques?
Non, cette fois-ci, on n'a pas connu d'inondation.
Ah bon?
Il y a 4 ans, donc en 2011, on a connu des inondations. Et cette fois-ci, on a essayé de stabiliser le berge de notre...
Quand vous dites on a essayé, c'est au niveau de la population, bien sûr.
Au niveau de la population, oui. On a demandé aux chariomènes, comme on les appelle, ceux qui amènent des déchets, de déposer des déchets le long de la berge. Et on met un peu de terre et ça consolide la berge. Et ça fait que la berge a une hauteur assez élevée et que le niveau d'eau qu'on a connu cette fois-ci n'a pas pu inonder le quartier. Donc on a été épargné, contrairement à ceux qui sont de l'autre côté de Salongo, où les débordements de eaux a inondé pratiquement toutes les parcelles.
Donc ça c'est une solution que vous avez trouvée au niveau local. Mais les grands travaux, c'est comme vous l'avez dit, c'est au niveau du gouvernement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable plan d'aménagement urbain. Comme ça, tous ces quartiers qui sont souvent concernés, on verra quelles sont les solutions durables à trouver. Et également là où on n'a pas encore le éviter qu'on puisse lotir, reconstruire de n'importe quelle manière.
Oui, en fait, le plan général d'aménagement existe actuellement. Il y a un dernier plan d'aménagement qu'on a élaboré avec le concours de l'Agence française de développement.
Oui.
Donc, on appelle le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise, SOSAC en sigle. Et dans ce plan, on prévoit comment est-ce que le Kinshasa pourra se développer d'ici l'an 2030 au plus tard.
Voilà, comment lutter contre les inondations en RDC. Théodore Lou Kakao, spécialiste en environnement, est notre invité. Vous pouvez réagir au 081-890-63-94 ou poster votre réaction sur la page Facebook Okapi Service.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Pacifique Kabedi nous appelle de Kinshasa. Bonjour Pacifique.
C'est pas Kabedi, c'est Pacifique Kaboula.
Ah, Pacifique, Kaboula, oui. Merci. Vous appelez de Kinshasa. On vous écoute, madame.
Ok. Moi, je voulais juste dire...
Madame Pacifique, yeah. S'il vous plaît, essayez de vous déplacer. On a du mal à vous suivre. Hein. Essayez de vous déplacer. Là, apparemment, ni moi ni l'invité, nous arrivons à bien vous suivre. J'espère que ça va mieux aller maintenant. Allez-y, madame.
Vous ne me saisissez pas tout.
Bon, là, bah, allez-y. Je pense bien que ça va mieux maintenant. Allez-y.
Ah, d'accord. Je voulais dire que dans cette lutte, il y a beaucoup à faire. Hein. Dans cette lutte, parce que il y a des côtés, juste, je dirais, tout au long de la rivière, hein, partout là où il y a des rivières, c'est vrai que les gens ont construit un architecte et aussi les gens vivent dans ces milieux comme d'habitude. En plus de ça, ils utilisent mal la rivière. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui les a dit que les poubelles, il faut jeter, vraiment nécessairement, il faut jeter des poubelles dans des rivières, parce qu'aujourd'hui, nous avons les montées des eaux. Alors, il y a un comité du côté Massina, un comité qui a jugé bon de pouvoir organiser une manifestation. Parce que ces gens, tu peux leur dire aujourd'hui que c'est pas bien, mais finalement, ils ne vont pas écouter. Finalement, ils vont continuer toujours à le faire. Et si l'eau entre, l'inondation touche tout le monde. Et pas seulement la même personne. Alors, ils ont organisé une manifestation de sensibilisation. Et dans cette manifestation, ils ont voulu projeter un documentaire qui parle de la dégradation de terres, du réchauffement climatique. Donc, faire un effort de pouvoir atteindre le niveau local, parler aux gens comment ça se passe. Et tout cela demande aussi les finances. Qu'est-ce que le gouvernement fait comme plan d'action pour sensibiliser tous ces gens? Ça, c'est que moi, je demande à l'invité. Merci.
Voilà. Merci, Madame Pacifique Kaboula. Depuis Kinshasa, à Bandundouville, Jérémy doit être en ligne. Bonjour, Jerry. Ah, Jerry n'est plus en ligne. On espère qu'on va le retrouver. Alors, Théodore Lokakao, comment vous réagissez par rapport à Madame Pacifique, qui a parlé de cette pratique qui est très courante aussi, hein, dans certains quartiers, on a l'habitude de tout déverser, dans les rivières, hein, et parfois, toutes ces rivières qui traversent certains quartiers, elles ne sont même pas curées.
Oui, bien sûr que, pour le cas de la rivière Ndjili, qui c'est une grande rivière, le déchet, c'est vrai, sont parfois jetés dans la rivière, peuvent réduire la grandeur du lit de ces cours d'eau. Mais j'ajouterais à ce que madame vient de dire que il y a une nécessité urgente que la ville de Kinshasa soit reboisée. Pourquoi? Parce que le reboisement ou le bois dans une ville intervient dans la régulation du cycle de l'eau, notamment de la vapeur d'eau, dans l'atténuation du rayonnement, du réchauffement de la ville. Aujourd'hui, si vous regardez la ville de Kinshasa, il y a peu d'arbres à travers la ville. Si ce n'est dans certains, disons, communes périphériques, on trouve des arbres fruitiers, etc. Donc la ville est pratiquement dénudée. Donc, au contraire, on est en train d'élargir les routes asphaltées, d'accroître le nombre de ces routes, et cela accroît le réchauffement à la base, au sol. Parce que l'atmosphère, en fait, n'est pas chauffée d'en haut, c'est d'en bas que l'atmosphère est chauffée, et cette chaleur augmente l'évaporation. Nous avons un plan d'eau important à côté, qui est le Pool Malebo, et on a des quantités importantes de vapeurs qui rentrent dans l'atmosphère, et qui, plus tard, vont nous revenir sous forme de fortes pluies. Et on observe, par exemple, il y a quelques jours, avec des amis de l'aéroport d'Ndjili, qui nous disaient, il y a eu un orage local qui a pris naissance, et qui a donné de fortes pluies. Je ne sais pas si les gens se souviennent, il y a eu des vents très violents, et puis une quantité importante d'eau de pluie est tombée. Parce que là, on est en présence de CB, qu'on appelle communément cumulonimbus, qui est un nuage à grand développement vertical, et qui a des quantités importantes d'eau qui peuvent aller jusqu'à 70 000 tonnes par nuage. Et vous comprenez, quand un tel nuage prend naissance à Kinshasa et commence à se déplacer, à faire tomber toute cette quantité d'eau, ce n'est pas étonnant que les inondations surviennent. Donc, on a intérêt aujourd'hui, je pense, d'avoir un plan de reboisement de la ville qui pourra aider à atténuer l'effet de chaleur, l'effet de réchauffement constant à la ville. Et ça pourrait aussi diminuer, avoir un impact sur les précipitations.
Donc, vous avez déjà parlé du plan d'aménagement urbain. Vous avez dit les études ont été déjà menées et que le plan existe déjà. Il reste seulement
la mise en œuvre.
Mmh. Et là, vous parlez aussi d'un plan de reboisement. C'est surtout pour la ville de Kinshasa, c'est important. Oui. Mais parlons de l'expérience de votre quartier. Ça peut inspirer à beaucoup d'autres personnes qui vivent dans des quartiers peut-être marécageux ou bien qui ont des problèmes d'inondation comme le vôtre. Vous avez dit il y a 4 ans, vous avez eu de graves problèmes d'inondation.
Mmh.
En 2011, et cette fois-ci, ce n'était pas le cas, parce que vous êtes organisé au sein de votre communauté pour
protéger
tout à fait. Et vous êtes organisé comment?
Il y a un comité qui supervise, disons, cette organisation.
Et l'initiative est partie de qui?
Bon, des habitants du quartier,
oui,
qui eux-mêmes ont dit non, nous devons nous organiser, nous sommes des intellectuels, nous ne devons pas nous laisser faire subir les événements, alors que chacun travaillant a un petit moyen peut aider à mettre le moyen ensemble et pouvoir résoudre notre problème ou nos problèmes. C'est ainsi qu'il y a eu des cotisations. On a acheté des moellons, on a construit une partie de la digue, mais c'est plus l'initiative de demander aux chariomènes qui amènent des déchets de déposer sur la berge qui nous a sauvés. Parce qu'en fait, c'est moins coûteux. Nous ne dépensons pas de l'argent et on va jeter leurs déchets dans la rivière. On leur dit non, ne jetez pas dans la rivière, mettez le long de la berge et puis après, on essaie de mettre un peu de terre et ces déchets, les biodégradables, ces décomposants vont petit à petit se compacter avec le sol, former une barrière à l'eau de la rivière.
Et ça exigeait beaucoup de fonds pour arriver à faire ce travail?
Non, pratiquement 0 fonds, je dirais. Et aujourd'hui, tout le monde est unanime, reconnaît que cela a aidé le quartier à être protégé contre l'inondation.
Votre quartier, vous parlez du quartier, c'est dans la commune de Massina.
Commune de Massina, en fait, c'est là où les Chinois avaient leur rizière, ça s'appelle Vallée Ngangwele. Quand vous entrez sur l'avenue Mobutu, hein, à l'abattoir, là, première rue à gauche, vous descendez le long de la rivière Ndjili, c'est jusqu'en bas, vous avez le quartier.
Et à ce niveau, les inondations étaient dues à quoi? Pourquoi elle avait ces inondations-là?
Bon, là, en 2011, il y a eu une inondation parce qu'en fait, le long de la berge, il y avait, disons, de la terre. Et dans une parcelle, le propriétaire aurait fait un trou à travers ces bancs de sable et l'eau, petit à petit, en montant, a tenté de passer par cette voie. Et au bout d'un certain temps, la voie s'est élargie et toute la quantité d'eau de la rivière est passée dans le quartier. Nous avions de l'eau dans les maisons jusqu'à 1,5 mètre, 2 mètres.
D'accord, en attendant que le gouvernement mette en œuvre de gros moyens, donc je pense bien que votre exemple est à suivre. Hein, si peut-être vous allez donner à vos contacts tous ceux qui sont intéressés, qui ont les mêmes problèmes. Par exemple, parce que vous êtes juste dans les quartiers à côté
De la rivière Ndjili.
Bon, peut-être parce que ceux qui ont déjà construit, je le disais au quartier des Bonhommes, Salongo par exemple, du côté de Limité, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils puissent s'organiser en attendant. Autrement, ça sera tout le temps de graissement des dents et de pleurs à chaque fois et qu'il aura de grosses pluies. On va poursuivre avec vous les temps pour nous d'accueillir deux auditeurs qui sont en ligne. Maurice Nguindou nous appelle du Kananga. Gila Douga est à Kinshasa. Maurice Nguindou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous.
Bonjour. On vous écoute, Maurice.
Oui, moi j'ai un témoignage ici dans la ville de Kananga. Vraiment, c'est déplorable. C'est comme s'il n'y a pas des autorités dans notre ville de Kananga. Je donne l'exemple derrière Lumière des Nations, tout près de l'orthodoxe, l'église d'orthodoxe. Il y a une inondation là-bas très terrible. Une inondation terrible à ne pas expliquer. Et il y a les autorités dans notre ville, et surtout c'est la ville de Kananga. Si vous arrivez là-bas, vous avez même votre délégué André Kambala. Envoyez-lui d'abord qu'il aille debout, d'abord regarder la place là. C'est déplorable vraiment. C'est comme s'il n'y a pas les autorités. Et s'inquiéter, juste à côté de cette inondation là, il y a le chef de cette localité là, de cette localité industrielle. On a même mis le panneau publicitaire, on a écrit, c'est ici le chef de cette localité de Kaoulomba. Il est juste devant l'inondation là. Il y a des grenouilles qui sortent du jour au jour. Si même on peut compter les inondations au monde, tu peux dire même que c'est ça, mais deuxième au monde, l'inondation. C'est vraiment déplorable. C'est comme si on n'a pas les autorités. C'est ce que je voulais aussi témoigner à notre invité.
Bah, merci à Maurice Nguindou de votre témoignage depuis Kananga. Guilain Duga, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Guilain.
Bonjour Radio Capi.
On vous écoute Guilain.
Ok, je trouve que le sujet que vous avez aligné, c'est un sujet très très important, mais qui est un sujet multidimensionnel.
Oui.
Parce que j'ai suivi votre invité qui parlait du plan d'urbanisation qui existerait. Mais il faut se mettre en tête que bien que ce plan existe, mais le plan n'a jamais été, n'est-ce pas, appliqué. Je prends ici, par exemple, nous sommes ici à Kinshasa. Vous arrivez dans d'autres communes, vous trouvez qu'il y a une promiscuité totale. Et quand vous prenez la hauteur de clôture, c'est déjà un étouffement parce que c'est la chaleur partout. Ça, c'est de un. De deux, dans le site même à problème, vous allez trouver qu'il y a des conservateurs qui donnent même de papier, tout ça. Aujourd'hui, les gens, ils peuvent y avoir des catastrophes telles que nous les avons enregistrées, mais demain, vous allez trouver encore d'autres personnes à qui on a octroyé encore le titre pour construire dans les mêmes endroits. C'est là le problème, parce que quand il y a de l'impunité, bien que nous allons commencer, donc c'est-à-dire on risquerait d'avoir, on risquerait d'être réactionnaire. Donc c'est-à-dire à chaque événement, nous nous mettons, on commence à parler de catastrophe. Je crois que la meilleure politique, c'est la prévention. Donc, prenons des mesures très sévères. Si vous arrivez à octroyer une parcelle sur un site à problème, c'est vous le conservateur qui va répondre. Ainsi de suite. C'est dans ce sens-là que nous pouvons peut-être sauver les vies humaines plutôt que de commencer à faire, n'est-ce pas, des discours qui risqueraient d'être inefficaces au moment où nous avons déjà enregistré des dégâts. Voilà un peu à ce stade du débat ma petite contribution que j'avais à faire.
Merci de votre contribution à ce sujet, comment lutter contre les inondations en RDC. Merci Guilain Duga d'avoir appelé Kinshasa. On reste dans cette même ville, on va retrouver Luc Roger. Bonjour Luc.
Ah, bonjour Marcel, bonjour les auditeurs de Radio Capi, la radio de la paix.
On vous écoute Luc Roger.
Oui Marcel, merci beaucoup parce que tout récemment notre journal Observateur est revenu sur cette question d'inondation à Kinshasa. Marcel, moi je dirais d'abord que je crois que nous devons d'abord être sérieux, nous Congolais. On parle de plan d'urbanisation de la ville. Moi je sais que depuis 60, que ce soit à l'époque de Mobutu, que ce soit à l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, que ce soit à l'époque de Tel, on a toujours parlé de plan d'urbanisation de la ville. Mais rien n'a été fait. On parle aujourd'hui d'Njili, Matete, qui a été inondé. Mais il y a des quartiers à risque aujourd'hui qui risquent de connaître les mêmes situations. Je donne un cas concret. La cité du fleuve que tout le monde vante aujourd'hui. Il y a eu des experts belges avant qu'ils aillent à la COP, à la conférence sur le climat. Ils ont fait une conférence à Wallonie-Bruxelles et même à la halle de la Gombe. Ils ont montré noir sur blanc que cette cité est appelée à disparaître le jour où le fleuve va récupérer ses droits. Parce que les gens n'ont pas la culture de mémoire. En 1911, il y a eu une forte inondation, il y a eu une forte montée du fleuve qui a submergé même le quartier Kingabwa. Et le même phénomène s'est reproduit dans les années 80, je crois, en 1998 ou 97, avant l'entrée de la FDEL, tout Kingabwa a été inondé. Parce que ce sont des zones qui sont des zones à basse altitude. Et le jour où le fleuve va récupérer ses droits, mais cette cité du fleuve va disparaître d'elle-même. Ce sont des investissements dangereux. On devait faire des études de faisabilité avant la construction de cette cité. Deuxième cas, je donne la cité, le quartier Bonfant. J'étais là, j'ai même un cousin qui a un terrain là-bas. Vous voyez les quartiers Bonfant comment c'est construit. Il n'y a aucun plan d'urbanisation, il n'y a pas de canalisation. Et le jour où les inondations vont commencer à se reproduire sur ces sites, les gens vont commencer à crier, mais simplement parce que nous n'avons pas prévu, il n'y a aucune planification. Là, nous devons être vraiment sérieux et j'en appelle vraiment aux autorités compétentes qui sont spécialisées, ceux qui distribuent abusivement des droits de construction, des certificats de comment on appelle ça, certificat de, je ne sais pas Marcel, comment on appelle ça encore, certificat de pour avoir intérêt là-dessus. Je crois que tout le monde doit être sérieux pour vous voir est-ce que ça vaut la peine de construire ici ou ailleurs. Allô?
Ben, je vous écoute, allez-y, on vous écoute.
Oui, c'est un peu ça ma contribution. S'il faut que sortez de Kinshasa, quand vous allez à Matadi, il y a un quartier qu'on appelle Soyo aujourd'hui, et ce quartier-là se trouve un peu en amont de la ville, les jours où il y aura des inondations, on va voir toutes les têtes d'affiches faire le défilé sur place, dire que voilà, nous allons prendre des mesures pour assurer tant soit peu la souffrance de la population. Nous devons être sérieux. Ce pays, on a été ridicule à plusieurs reprises. Je crois qu'il est temps pour les autorités de montrer d'abord l'exemple. Et si les mesures sont vraiment prises au niveau des autorités, qu'on interdise, que la loi soit vraiment stricte, qu'on puisse dire tel endroit on peut construire, tel endroit on ne peut pas construire, je crois que la population va suivre. Parce que si la population suit souvent quand les mesures sont vraiment draconiennes. Mais s'il y a deux poids, deux mesures, croyez-moi Marcel, nous allons continuer, on reviendra ici deux ans plus tard, on va faire la même émission, on va pleurer les mêmes morts. Ça, c'était ma petite contribution.
Merci à Luc Roger depuis Kinshasa. Théodore Lokaka, vous avez suivi?
Oui, j'ai suivi.
Vous avez suivi, il y a Guylain Douga et Luc Roger qui ont abondé presque dans les mêmes sens. C'est-à-dire, il faut d'abord assainir les secteurs de services de titres immobiliers, simplement de titres fonciers, simplement parce que d'après les deux intervenants, on délivre de titres parcellaires comme ça, on délivre de certificats d'enregistrement, on tient même pas compte de l'endroit des sites dangereux, ça se passe comme on veut. Donc il faut absolument essayer d'assainir les secteurs. Et puis ils ont également insisté sur le fait qu'il faut de la prévention, faut pas attendre chaque fois qu'il y ait de catastrophes pour commencer à déplorer les nombres de... à déplorer les nombres de sinistrés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour finalement rapidement peut-être mettre ces plans en œuvre?
Oui, je disais tout à l'heure, j'ai suivi les deux intervenants. Je voudrais les rassurer que c'est vrai, jusqu'en 1967, c'est le dernier plan général d'aménagement que nous avons eu de cette ville. Mais depuis lors, il n'y a pas eu de plan général d'aménagement. C'est comme ça que les choses se faisaient comme ils sont en train de les déplorer. Aujourd'hui, je confirme que nous avons fait un travail avec des experts français, des équipes de bureau d'études français, qui ont pu mettre sur pied le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération quinoise que nous appelons SOSAC. Ce plan a été finalement terminé en juin 2014. Et pour que ce plan soit opposable à tous, on l'a fait passer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où il y a eu un vote pour que ce document soit coulé sous forme de loi. Et cela a été fait. Et actuellement, je crois que le décret du gouverneur quant à ce plan a été publié. Mais la mise en œuvre coûte cher. Ce n'est pas 2 000 $, ce n'est pas 100 000 $, c'est au-delà, je crois, des milliards. Et aujourd'hui, avec l'AFD, on est en train d'examiner la possibilité de mobiliser des fonds pour que ce plan puisse être exécuté. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a aussi le règlement d'urbanisme qui a été parallèlement élaboré pour qu'on puisse maintenant réglementer. Vous êtes deux voisins, si l'un est en train de construire sa maison en étage, comment cette maison doit être par rapport au mur de clôture, jusqu'à quelle hauteur, tout ça c'est réglementé actuellement. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est vrai qu'on ne fait pas beaucoup de marketing là-dessus. Peut-être c'est comme ça que les gens ne savent pas. Mais s'il a des amis ou s'ils ont des amis au niveau de l'Assemblée provinciale, ils vont confirmer ce que je suis en train de dire. Donc voilà, en gros, ce que je peux dire.
Voilà, comment lutter contre les inondations en RDC? Théodore Lou, quelqu'un au spécialiste en environnement et notre invité. Donc, si vous venez de vous brancher sur la fréquence de la paix, c'est le magazine Okapi Service, et c'est le sujet qui est abordé. Donc, vous pouvez nous appeler au 081-890-63-94 pour réagir. Nous avons Alidor qui nous appelle de Lubumbashi. Alidor, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Alidor. Quelle est votre question?
Oui, j'aimerais savoir, puisque en suivant les différentes interventions, c'est comme si tout est calqué sur les centres-villes. J'aimerais parler plus pour les habitants qui se trouvent le long du fleuve Congo.
Oui.
Vous allez vous rendre compte que Il y a parfois certains qui vous disent que bon, ça c'est notre village qui nous a été légué par nos aïeux et il n'y a pas moyen qu'on puisse se déménager. Et à chaque fois qu'il y a débordement de l'eau, du fleuve, et les gens sont toujours ils connaissent des problèmes très capitaux. Alors pour moi, j'aimerais savoir comment nous pouvons aider ces gens là où sur le terrain il n'y a même pas les services cadastres donc pour éventuer leur métier. Alors il y a des gens qui souffrent très sérieusement et il n'y a même pas moyen d'assainir les sites. C'est dans ce sens-là que je voulais. Quelles sont les propositions que nous pouvons, que l'invité peut nous donner pour essayer d'aider les gens qui sont tous différents de. Je peux évoquer notamment les cas de village Mata, dans les territoires des Flamands.
Et gens, vous avez dit, et là, il n'y a pas de service de cadastre?
Vous dites?
Il n'y a pas de, dans ces coins-là, il n'y a pas de service de cadastre?
Non, il n'y a pas de service de cadastre. Il n'y a pas de service de cadastre. Vous allez vous rendre compte que les milliers dirigés par un chef coutumier, peut-être lui aussi n'a même pas des niveaux de intellectuels. Bon, et dans ce cas-là, comment nous pouvons aider cette catégorie-là de la population?
Voilà, merci Alidor depuis le Bombashi. Ogi Zuma, vous êtes à Kananga. Bonjour Ogi.
Bonjour Marcel, bonjour aussi à l'invité.
Alors, quelle est votre question par rapport à ces sujets sur comment lutter contre les inondations en RDC?
Vraiment, ce sujet-là, en rapport avec l'inondation, est catastrophique, vraiment. Ici, à Kananga, au moment où je vous parle, il y a du sang qui coule vraiment. Du côté de la lumière des nations, il y a une inondation qui vient maintenant de durer, ça fait 5 ans. Toutes les autorités, parlant du gouverneur Lubaya, a laissé cette inondation. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Au moment où je vous parle, la SNCC aussi a commencé à distribuer des espaces aux agents du côté de Nanza, près de la carrière publique. Vraiment, toutes ces choses qui se font là ne vont pas créer à la longue des inondations.
Alors. Merci Ogi. Alors, quelle est votre question, Ogi? Vous avez déploré ce qui se passe dans la vie du Kananga. On est en train de lotir comme on veut. Et puis, il y a souvent des cas d'inondation. Votre question, c'est laquelle?
Oui, maintenant, ma question est d'essayer de savoir les inondations vraiment sont causées par quelle stratégie vraiment.
D'accord. Merci, Ogi Zuma, depuis Kananga. Théodore Lokaka, je vous dis d'abord à Lido qui a appelé de Lubumbashi, il est revenu sur le chef coutumier, parce qu'il a dit, pour lui, il a des coins où il n'y a pas de service de cadastre. Là, ce sont les chefs coutumiers qui distribuent le terre comme ils l'entendent, et bien souvent, ils les font à leur gré.
Oui, mais c'est le problème des services de l'État. Je crois que chaque village se trouve dans une entité administrative donnée dans laquelle il doit y avoir de services, que ce soit pour les travaux publics, pour l'aménagement, pour l'assainissement, hygiène, etc. Donc, dire que il y a des villages où il n'y a rien comme service, je crois que c'est un peu exagéré. Sauf que peut-être les habitants de ce village ne savent pas que au chef-lieu du district, du territoire, ou même là où il y a le bureau des secteurs, il y a des services de l'État qui peuvent les aider à mieux lotir leur espace. Donc on ne lotit plus l'espace aujourd'hui comme on le faisait dans l'ancien temps quand on n'avait pas encore connu la civilisation occidentale. Donc je crois qu'il y a lieu de s'informer d'abord et voir quels sont les techniciens qui peuvent les aider localement à résoudre leurs problèmes.
Vous avez également suivi Ogi Zuma qui est appelé de Kananga, qui est revenu sur les problèmes d'inondation qui se posent également dans cette ville. Et également, il a évoqué aussi les cas de lotissement qui sont en train de se faire. Alors finalement, il a cherché à savoir les différentes causes de ces inondations parce que d'après lui, on fait que déplorer, mais quelles sont les causes? Et puis, si vous pouvez revenir sur ça, comment attaquer ces causes?
Les causes, c'est quand, par exemple, un cours d'eau, qui a une certaine quantité d'eau qui passe régulièrement dans un certain débit, reçoit des quantités d'eau de pluie ou de ruissellement au-delà de sa capacité d'écoulement. à ce moment-là, les surplus d'eau débordent les lits du rivière, de la rivière ou du cours d'eau et va aller dans tous les quartiers environnants ou dans tous les coins environnants. Alors, il y a aussi les endroits qui sont encaissés, hein, des fonds de vallée ou quoi, qu'on appelle des endroits, des lieux inondables, où les quantités d'eau des pluies qui tombent ne savent pas s'écouler facilement vers un exutoire, vers une rivière ou un cours d'eau. À ce moment-là, ça forme un lac, disons, artificiel. C'est le cas peut-être de ce qu'il a donné là comme exemple. Hein, si c'est la cité Lumière des Nations, où pendant 5 ans, il y a une mare, il y a un marécage qui perdure, qu'on n'arrive pas à évacuer. Mais là, c'est le problème de l'autorité, de la population, parce que la population ne doit pas seulement se dire c'est l'autorité qui doit venir résoudre les problèmes. Elle doit savoir aussi poser le problème à l'autorité, insister, hein, pour dire que nous sommes exaspérés de voir cette situation perdurer et nous voulons que l'autorité trouve la solution adéquate. Donc, tu vois, c'est ça aussi. Alors, donc, la prise de conscience critique de la population par rapport à l'assainissement s'impose. C'est ce que je peux dire.
Voilà, la prise de conscience de la population elle-même aussi. Mmh. Mais alors, Théodore, avant de nous quitter, c'est tout de même important, en attendant, comme vous l'avez dit, comme on l'a souligné ici, que l'État mette, les plans existent déjà, mais en attendant que ces plans soient mis en œuvre, il y a des populations qui sont concernées par des inondations. Peut-être que à l'instar de ce que vous avez fait, ça peut également les inspirer, les temps d'arriver un peu à trouver tout à fait. Si vous avez des contacts à donner, peut-être le comité local à votre niveau, hein, un contact, ils pourront vous appeler et voir comment vous avez fait et puis qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire aussi à leur niveau pour éviter, en tout cas lors de prochaines pluies, et connaître ces genres de problèmes.
Oui, par exemple, pour la ville de Kinshasa, cet après-midi, nous allons avoir une très grande réunion dans le cabinet du gouverneur avec la commission de gestion des catastrophes naturelles, pour examiner ces différents aspects des inondations dans la ville de Kinshasa, afin de prendre des mesures adéquates et voir comment les résoudre.
Et pour la population, des gens qui veulent s'organiser en un comité pour faire face à leurs problèmes, vous avez un comité local de développement, peut-être un contact, des gens peuvent appeler.
Bon, personnellement, j'ai un numéro. Moi-même, j'ai un numéro.
Donc, s'il peut bien vous appeler.
Oui, c'est pas un problème.
Donnez votre numéro.
081.
Oui.
084.
Oui.
15.
Oui.
01.
Allez-y, répétez votre numéro.
081 084 1501. Et je suis ingénieur en hydrologie. Donc, je donne des cours d'hydrologie à l'ISTA et d'assainissement aussi. Donc, je puis être disponible pour leur rendre service. J'ajouterai en disant que nous avons fait, il y a 2-3 ans, un déplacement à Brazzaville pour soutenir Madame Claudia, pour justement, dans ce cadre-là, lutter contre les érosions, problèmes d'assainissement pluvial.
Voilà, on ne sait jamais si vous êtes intéressé à appeler Théodore Lokakao, qui a été notre invité, l'espèce d'environnement, mais il vit dans un quartier où il y avait également des problèmes d'innovation et ils ont pu s'organiser au niveau local pour trouver des solutions en attendant, comme l'avait dit, que l'État mette en œuvre ce plan d'urbanisation qui est déjà là, mais qui attend certainement des gros moyens. Donc, vous pouvez appeler Théodore Lokakao au 081 084 1501. D'accord. 081 084 1501. Voilà. Merci beaucoup, Théodore Lokakao, spécialiste en environnement. Avec vous, on a évoqué ces sujets sur comment lutter contre les inondations en RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Je vous remercie de l'invitation.